Bien, donc on va commencer. D'abord une information, donc le cours de Ludovic aura bien lieu demain. Donc avant de commencer proprement dit et de laisser la parole à Daniel Colson, je voudrais présenter simplement la démarche de ce cours qui nous retiendra donc deux séances. Ce cours a une dimension expérimentale, on a appelé ça cours dialogique, donc autour de dialogue. On avait déjà expérimenté ça en 2008 avec Tanguy Wiem dans le cadre de l'Université populaire de Lyon. Donc il ne s'agira pas d'un cours au sens classique avec simplement un monologue, mais on va pouvoir, disons, confronter deux enseignants qui ont des vues et des modes d'approche un peu différents du problème. C'est une expérimentation un peu pédagogique dans le cadre de l'université populaire, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a une tentation de considérer parfois la pensée comme quelque chose qui est unifié, fixe, et une tentation de l'auditeur d'adhérer ou de coller à la parole de l'enseignant. Donc l'idée du cours dialogique, ça peut essayer de mettre en pratique d'autres caractéristiques de l'activité intellectuelle. Ça indique que la pensée inclut des différences, voire des contradictions, donc des pensées plutôt que la pensée. Deuxièmement, ça présente la pensée comme un mouvement, comme un processus, plutôt que quelque chose de fixe. Troisièmement, ça met en évidence que la pensée, c'est aussi du débat et de la discussion. Enfin, dernier point, ça indique que c'est moins la proximité avec ses propres points de vue, plus ou moins stabilisés, qu'on l'on doit rechercher pour avancer intellectuellement, mais que, puisque cette proximité avec nos propres points de vue tend, disons, à figer quelque peu les personnes dans leurs évidences, nous-mêmes comme vous-mêmes, mais que l'activité intellectuelle, ce qui est intéressant aussi, c'est de la confrontation avec d'autres points de vue qui peuvent nous faire aller dans des directions qu'on n'avait pas prévu d'aller au départ. Donc c'est pour ces différentes raisons que, disons, le cours dialogique peut être un dispositif intéressant. Donc il aura une part un peu fixe, mais une part aussi d'improvisation par rapport à un cours classique. La partie cours durera un peu plus longtemps, autour de 1h20, 1h25, puisqu'il y a le problème d'ajustement entre les deux enseignants. Le cours donc tournera autour de l'œuvre du philosophe Michel Foucault, né en 1926, mort en 1984. Donc la première séance traitera du pouvoir et la deuxième séance de la subjectivation. Donc pour cette séance, vous avez été donc distribué à l'entrée, vous avez des textes, un chouette texte de Michel Foucault sur le pouvoir. Ce chouette texte, vous le retrouverez sur le site de l'Université populaire. Par contre, comme ça finalement demande beaucoup de moyens à l'Université populaire, qu'on aura d'une certaine façon, ce cours aura épuisé son compte de ressources matérielles du côté de l'Université populaire. La semaine prochaine, il y aura aussi un choix de texte, mais il ne sera disponible que sur le site internet et pas sous la forme papier, autour de la subjectivation. Enfin, comme aujourd'hui on est un 22 mars, donc je voudrais simplement dédier cette séance à mon ami Daniel Ben Saïd, mort récemment et qui était un des fondateurs en 1968 du mouvement du 22 mars. Alors pour cette première séance, on va procéder ainsi, environ 20 minutes d'intervention chacun. D'abord, Daniel Colson parlera, puis chacun réagira pendant 15 minutes environ à ce qu'a dit l'autre, puis on y aura une dernière petite conclusion générale de 5 minutes chacun, et puis on ouvrira le débat. Donc le cours proprement dit durera plutôt autour d'1h25 si j'inclus ma petite présentation de départ. Voilà, et je laisse la parole à Daniel.
Donc je vais m'inscrire dans la suite un peu de ce que Philippe vient de dire en soulignant d'abord comment, comme toute chose, l'œuvre de Michel Foucault, elle peut faire l'objet d'un grand nombre d'interprétations. Donc, par exemple, pour donner un exemple grossier, l'œuvre de Foucault est née à gauche, à l'extrême gauche, dans un contexte de gauche. Or, elle fait actuellement, je ne développerai pas ce point, mais elle fait actuellement l'objet d'interprétations de droite, plus ou moins radicales, On retrouve ce phénomène à propos d'autres auteurs. Si vous prenez Deleuze, qui est un auteur très important pour moi, on peut s'apercevoir que Deleuze sert de référence à l'armée israélienne dans sa lutte, dans ses mesures répressives contre les Palestiniens. Donc, les interprétations multiples de Foucault n'ont rien d'étonnant, mais ça m'oblige un peu à préciser le point de vue qui est le mien dans ce que je vais dire là tout de suite. Donc, ce point de vue qui commande mon interprétation, c'est la pensée libertaire, un point de vue que je partage avec Philippe Corcuff, mais même si dans la pensée libertaire, il y a plein de maisons différentes et qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Donc, quel sens, donc la question que je voudrais poser, c'est quel sens l'œuvre de Michel Foucault peut-elle prendre pour un point de vue libertaire? Donc, c'est cette question que je voudrais traiter. Alors, la remarque que je voudrais faire, c'est que ce sens, il est ambivalent. Autant Deleuze fait pleinement écho à la pensée libertaire, sans beaucoup de réserve, et ça, c'est pas le sujet de ce soir, autant Foucault lui semble souvent très proche de la pensée libertaire, pour aussitôt s'en éloigner, voire lui être franchement étrangère ou contraire. Alors c'est vrai de ce que Foucault dit lui-même. C'est-à-dire si Deleuze se réfère de façon déterminante et positive à l'anarchisme, Foucault a pour originalité dénoncer très souvent, et souvent violemment, avec des arguments étranges, le point de vue libertaire. On pourra peut-être aborder ce problème dans la discussion. Donc d'un point de vue libertaire, le regard est ambivalent. D'un côté, la pensée libertaire a toutes les raisons de se retrouver dans Foucault, d'y trouver la vérification et le développement de ses propres propositions. D'un autre côté, elle ne peut que s'éloigner de lui radicalement. Et ce sont ces deux points que je voudrais aborder dans mon exposé rapidement. Donc, premier point, la proximité entre Foucault et l'anarchisme. Et le deuxième point, ça, la différence. Donc cette proximité touchera aussi la question de la subjectivité, mais elle touche directement la question du pouvoir. De l'anarchisme, on retient le plus souvent l'anti-étatisme, sa volonté de détruire l'État, et ceci par opposition au marxisme, qui aurait été soucieux de s'emparer du pouvoir d'État et de s'en servir pour construire le socialisme ou le communisme. Cette interprétation de l'anarchisme n'est pas fausse, mais elle est très réductrice. Dans le vocabulaire de Proudhon, on pourrait dire que l'anti-étatisme de l'anarchisme n'est que la résultante d'un processus à la fois historique et géographique beaucoup plus complexe. L'anarchisme se développe, c'est la conséquence ultime des positions de l'anarchisme. L'anarchisme proprement dit, comme mouvement révolutionnaire et ouvrier, cet anarchisme est né de la pratique des relations et des interactions pratiques au sein de la Première Internationale, et les grands concepts du mouvement libertaire qui ont permis cette cristallisation d'un mouvement identifiable à l'anarchisme ne sont pas ceux d'anarchisme et d'anti-étatisme, mais ce sont les notions d'autoritaire et d'anti-autoritaire. L'anarchisme ouvrier est né de la façon de vivre et de concevoir les relations immédiates au sein du mouvement ouvrier et révolutionnaire. Ce mouvement est né de ça, les pratiques marxistes étant perçues et dénoncées comme autoritaires, et l'alternative à ces pratiques se percevant et se présentant comme anti-autoritaires, avant que ces pratiques anti-autoritaires ne prennent sens dans un projet et une pensée plus générale, l'anarchisme et l'anarchie. Ce socle ou ce fond déterminant du projet de la réalité libertaire, Foucault, et c'est un immense avantage, permet de le penser et de le préciser, de le rendre particulièrement clair, et donc je vous renvoie dans la liasse de textes qu'on vous a distribué aux extraits de La volonté de savoir, donc La volonté de savoir qui est un livre tournant dans la pensée de Foucault, et qui est donc paru en 1976 et qui s'intitule « Méthode ». Donc le texte « Méthode » est très intéressant de ce point de vue-là. Et donc dans ce texte, Foucault avance 5 propositions, 5 propositions que je vais vous rappeler pour ceux qui les connaissent déjà et indiquer pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont 5 propositions sur le pouvoir qui donnent sens au mouvement anti-autoritaire et à la naissance de l'anarchisme. Première proposition, le pouvoir n'est pas quelque chose qui s'acquiert ou qui se partage, que l'on garde ou que l'on laisse échapper. Le pouvoir n'existe pas en tant qu'essence ou entité. Donc les phrases « il a perdu le pouvoir »,« savoir partager le pouvoir », etc., Foucault contribue à le dénoncer et à montrer que c'est une manière erronée de concevoir les choses. Pour Foucault, le pouvoir est diffus, omniprésent et relationnel. Il s'exerce, je suis au plus près des phrases de Foucault, il s'exerce à partir de points innombrables dans un jeu, donc des points innombrables, dans un jeu de relations, ça c'est plus difficile à saisir, de relations inégalitaires et mobiles. Le pouvoir se joue dans les relations immédiates, il se modifie sans cesse et il n'existe jamais de façon égale. Il y a toujours de l'inégalité dans les relations humaines à la source du pouvoir. Donc il passe par des déséquilibres incessants. Parce que comme ça bouge tout le temps, il y a du déséquilibre. C'est-à-dire que ça serait des déséquilibres compensés, soit des déséquilibres compensés, mais ça c'est l'interprétation libertaire, soit des déséquilibres qui donnent naissance à des dominations durables. Exemple, je vais vous donner un exemple, mais on en discutera, les couples. Faites une analyse des couples, on voit comment les équilibres peuvent se fixer. Bon, c'est un exemple, je ramène tout le temps. Mais... Donc, on retrouve ici, à l'échelle sociale, les analyses de Proudhon sur les rapports de force et sur l'idée d'équilibre des forces. Donc là, on est en plein dans les analyses de Proudhon. Seconde proposition, les rapports de pouvoir ne sont pas en position d'extériorité par rapport à d'autres types de rapports. Donc il n'y a pas un domaine du pouvoir, donc il n'y a pas d'extériorité par rapport à l'économie, la connaissance, l'amour, etc. Il n'y a pas de domaine propre au pouvoir, le domaine politique par exemple. Les rapports de pouvoir sont présents et agissent partout sans la moindre exception. Quand vous faites votre café le matin, vous êtes en train d'être dans des rapports de pouvoir. Donc les relations de pouvoir sont intérieures à toute relation possible. Donc cette idée, Foucault l'exprime à travers le concept d'immanence. Les rapports de pouvoir sont immanents à la réalité humaine et aux rapports humains. Ils ne viennent pas du dehors. Troisième proposition, elle est liée à la seconde, elle est très simple et paradoxale. Foucault, va dire « le pouvoir vient d'en bas ». Le pouvoir ne vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Le pouvoir ne vient pas de l'État ou des classes dites supérieures. Le pouvoir ne vient pas de Dieu, il vient de la multitude des relations immédiates. Et donc là, de nouveau, Foucault est très proche de Proudhon. État, classe supérieure et Dieu lui-même ne sont pas des principes premiers. Donc l'État n'est pas un principe premier, Dieu n'est pas un principe premier. Ce sont des résultantes, ce sont des effets. Et ce sont des effets de rapports de force multiples, dont on a parlé tout à l'heure, des rapports de force présents partout, en nombre infini, et qui se mettent en série, qui forment des clivages d'ensemble, des lignes de force générales, là il y a un point un peu obscur dans Foucault, qui viennent ensuite se rabattre sur les relations immédiates pour les organiser de façon permanente et durable. Quatrième proposition, ça se complique au fur et à mesure qu'on progresse. Les relations de pouvoir sont à la fois intentionnelles et non subjectives. Donc, ils sont intentionnelles et non subjectives. Cette quatrième proposition est difficile à saisir, mais elle est déterminante, puisqu'elle détruit radicalement toutes les théories du complot et toute une représentation du monde qu'on utilise largement, le complot dans la famille, comme dans l'État, comme dans le monde, etc. Donc elle ruine toute explication par l'action de quelqu'un caché dans l'ombre, les jésuites, les francs-maçons, les juifs, les arabes, les auvergnats, etc. Pour Foucault, les rapports de pouvoir impliquent Alors l'idée, c'est ça qui est intéressant, c'est que les rapports de pouvoir impliquent une multitude de calculs, de manœuvres, séduire quelqu'un, lui vendre une voiture, réussir une carrière professionnelle, et donc c'est intentionnel, et c'est les effets d'ensemble de cette multitude d'intentions font perdre le sujet possible d'une stratégie générale. Donc, je reprends, je cite Foucault, « Il ne faut pas chercher l'état-major qui préside à la rationalité du pouvoir, ni la caste qui gouverne, ni les groupes qui contrôlent les appareils d'État, ni ceux qui prennent les décisions économiques les plus importantes. » Et la dernière citation de Foucault, « La rationalité du pouvoir, c'est celle de tactiques souvent fort explicites au niveau local, Freud connaît bien ça, hein, mais qui en s'enchaînant produisent des logiques d'ensemble sans auteur ni sujet. » Donc il n'y a pas un sujet caché quelque part. Cinquième et dernière proposition, c'est peut-être la plus importante et qui va faire la transition avec c'est là où l'anarchisme va se séparer de Foucault, elle porte sur la question de la résistance au pouvoir. Donc cinquième proposition, elle porte sur la résistance au pouvoir. Je cite Foucault, « Là où il y a pouvoir, il y a résistance. » Donc une affirmation optimiste apparemment et encourageante du point de vue libertaire. Mais Foucault va la compléter immédiatement par deux idées beaucoup plus inquiétantes. Première idée, très logique avec ce qui précède, cette résistance au pouvoir n'est jamais en position d'extériorité par rapport au pouvoir. Donc cette résistance, elle ne vient pas du dehors, il n'existe pas de grand refus, ni en se retirant du monde, ni en s'opposant à lui. Donc il y a cette idée terrible, mais intéressante, il faut voir, on n'échappe pas au rapport de pouvoir. En termes dialectiques, on pourrait dire que l'esclave, en se révoltant contre son maître, continue d'être son esclave, même quand il lui a tordu le cou et qu'il continue de le piétiner 100 ans plus tard. Donc il continue d'obéir à la logique du maître. Deuxième idée, non seulement la résistance n'est jamais extérieure au rapport au pouvoir, mais ces résistances sont nécessaires au pouvoir. Alors ça, c'est une idée très forte. Le pouvoir a besoin qu'on lui résiste pour exister. C'est une idée nietzschéenne, mais intéressante. La résistance fait partie du pouvoir. Les rapports pouvoir, je cite Foucault, ne peuvent exister qu'en fonction d'une multiplicité de points de résistance. Dans les relations de pouvoir, ceux-ci jouent le rôle d'adversaire, de cible, de point d'appui, de saillie pour une prise. Bref, on n'échappe pas au pouvoir. Et donc c'est avec cette dernière proposition qu'il y a une divergence qui apparaît entre Foucault et la pensée anarchiste. Alors il y a un point d'histoire à faire, c'est qu'au moment où Foucault avance ses cinq propositions dans la volonté de savoir, il est sur le point d'entrer dans une crise terrible dont il ne se relèvera pas puisqu'il va mourir quelques années plus tard, et c'est vraiment une crise à la fois intellectuelle, politique, liée au contexte de l'époque. En 1977, on se prépare à l'union de la gauche, enfin, si vous voyez le contexte, c'est une période qui est en train de changer, on passe à une autre période. Et donc Foucault va rentrer dans une espèce de déprime et de crise intellectuelle qui va se traduire dans un texte, un des textes qu'on vous a donné, c'est un article qui n'aura pas de suite sur les archives, enfin, qui s'appelle « La vie des hommes infâmes », donc est tiré d'une revue qui s'appelle « Les cahiers du chemin ». Et donc Foucault formule ce lien du cœur, il dit « toujours la même incapacité à franchir la ligne ». Donc il est en train de douter de son projet, à passer de l'autre côté, à écouter ou à faire entendre le langage qui vient d'ailleurs ou d'en bas. Donc il est plongé dans les archives, sur les archives de police, du 18e siècle, toujours le même choix, dit Foucault, du côté du pouvoir, de ce qu'il dit ou fait dire. Donc là, il y a une prise de position, non seulement on ne sort pas du pouvoir, mais la résistance au pouvoir ou ceux qui veulent échapper au pouvoir sont imperceptibles et invisibles. Et donc c'est là qu'il va y avoir une divergence, j'ai peur de dépasser, non c'est bon, je vais essayer d'accélérer. Donc là, la divergence va être essentielle pour la suite de l'interprétation de Foucault. Donc pour penser cette dépendance par rapport au pouvoir, Foucault va proposer un concept qui va avoir une suite très grande en sociologie et ailleurs, qui est le concept de dispositif. Donc il va servir la notion de dispositif, j'ai essayé de vous la définir, dans la mesure où on peut la définir. Un dispositif, c'est un assemblage hétérogène et dominateur de discours, de lois, d'institutions, de pratiques, d'outils, de procédures, de représentations et de dispositions spatiales. Exemple de dispositif, la famille, l'école, l'université populaire de Lyon, enfin, etc. Ça, c'est des dispositifs. Donc ces assemblages sont au cœur de la vie sociale, de la vie humaine, et ils fonctionnent sous le signe de la domination, de la contrainte, sous le signe de l'assujettissement à des identités, des rôles, des fonctions. Là, vous êtes assis, vous avez le rôle de gens qui écoutent, nous on parle à deux, enfin, etc. Donc, des fonctions et des subjectivités extérieures et factices. Donc le dispositif, c'est ce qui fait qu'on est un homme plutôt qu'une femme, alors qu'on voudrait être une femme, par exemple. On est un enseignant ou un policier, une mère de famille, un bouddhiste, un auditeur d'université populaire, et on est prisonnier du dispositif qui nous fait exister à un moment donné. Donc dans Foucault, il y a une position pessimiste qui s'est accentuée à la fin de sa vie et qui trouve un écho dans une pensée beaucoup plus large où on retrouve cette notion pessimiste d'un dispositif qui domine les êtres humains. Donc je signale deux références pour ceux qui voudraient continuer à travailler ça. La première référence, on la trouve chez Bourdieu. Il y a une dimension optimiste dans Bourdieu, mais elle est très douteuse, enfin bref. Mais la pessimiste, elle, est très présente. Et donc, ce pessimisme de Bourdieu, je vous signale deux pistes possibles. Une première piste, elle est ontologique, elle est sur la définition de l'être social, au moins. Et donc, en particulier, la façon dont Bourdieu va utiliser une vieille notion juridique sur l'héritage, le mort saisit le vif. Voilà, ça c'est une idée très forte chez Bourdieu, qui définit très bien ce que j'ai essayé de dire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le vif est saisi par le mort, les pauvres Yougoslaves, les gamins qui se sont entretués pour le champ du merle d'une bataille de 1452, c'est le vif qui est saisi par les soldats sont l'exemple même du vif qui est saisi par le mort, la patrie et tout ça. Donc l'héritier croit s'emparer de l'héritage, mais en fait c'est l'héritage qui s'empare de l'héritier. Et donc je vous rappelle, j'accélère là, mais Bourdieu, il va développer les concepts d'histoire objectivée, c'est le monde dans lequel on est, et l'histoire incorporée qui est terrible, c'est que le bébé va incorporer toutes les prédispositions nécessaires pour devenir un bon militaire, un bon mari qui bat sa femme, etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour une société un peu structurée. Deuxième aspect dans Bourdieu qui est très intéressant, c'est toute sa théorie du symbolique où on retrouve cette idée très pessimiste, et je voudrais vous donner une définition bourdieusienne dans le style encore plus que d'habitude, et qui porte sur les rites d'institution, donc les décorations, les mariages, les bar mitzvahs, etc., tout ce qui fait qu'on devient un être humain à part entière, en se mariant et tout ça. Et donc, Bourdieu dit ça, et qui fait vraiment écho à Foucault, ces rites d'institution sont seuls capables de donner au moins, il était très déprimé ce jour-là, ces rites d'institution sont seuls capables de donner au moins l'apparence d'un sens, d'une raison d'être à ces êtres sans raison d'être que sont les êtres humains. Ça, c'est du Bourdieu. Hein. De leur donner le sentiment d'avoir une fonction, hein, ou tout simplement une importance, de l'importance et des arracher ainsi à l'insignifiance. Si vous n'êtes pas policier, vous n'êtes rien. Si vous êtes chômeur, vous n'êtes rien. Si vous n'avez pas de boulot et que vous vivez dans votre famille, et bien vous n'êtes rien. Le véritable miracle que produisent les actes d'institution réside sans doute dans le fait qu'ils parviennent à faire croire, je cite toujours Bourdieu, aux individus consacrés qu'ils sont justifiés d'exister, que leur existence sert à quelque chose. Donc ce pessimisme de... C'est-à-dire qu'on n'existe que par des dispositifs, et les dispositifs nous transforment en n'importe quoi, donc c'est une vision très pessimiste. Donc on la trouve chez Bourdieu. Je voudrais vous signaler, mais beaucoup plus rapidement, une deuxième piste, qui est très intéressante, qui touche l'anarchisme là, c'est Agamben, Giorgio Agamben, un philosophe italien qui a écrit un petit ouvrage très court qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» où il développe la position de Foucault. Or, Agamben a les positions les plus radicales sur Foucault, et en même temps, il est très proche de certains courants révolutionnaires actuels, dont ceux dits de Tarnac, où Agamben joue un grand rôle. Et donc, il faudrait cette vision révolutionnaire. On voit bien que si on ne peut plus rien attendre de ce qui existe dans la société, puisque ce ne sont que des dispositifs, on voit bien la dimension nihiliste de cette position révolutionnaire, c'est qu'on ne peut s'appuyer sur rien, il faut partir de rien pour développer quelque chose. Donc face à ça, j'ai dépassé le temps, donc j'essaye à tout prix de rattraper. L'anarchisme, évidemment, ne peut pas accepter ce schéma nihiliste dans la mesure où l'anarchisme pense qu'il y a toujours quelque chose à faire et que la révolte a sa propre logique et son propre développement. Et donc, je me permets de renvoyer, pour ceux qui voudraient creuser ça, comme on reviendra peut-être sur ce point-là, il y a un texte sur RA Forum, c'est un site, où moi j'ai fait un petit texte qui essaye de discuter les thèses d'Agamben sur les dispositifs. Donc ça s'appelle « Agencement et dispositifs, les dispositifs d'Agamben ». Donc vous pouvez consulter ce texte. Et enfin, la deuxième grande référence, c'est évidemment Deleuze. Parce que Deleuze n'accepte pas, n'est pas du tout dans cette logique, et donc ça se traduit dans les concepts utilisés, donc au dispositif, mais c'est un hasard, hein, les concepts n'ont aucune importance, Deleuze va opposer au dispositif ce qu'il appelle des agencements, et donc pour Deleuze, le réel humain, c'est une lutte inexpiable entre l'oppression et l'émancipation. Donc dans Deleuze, il y a l'idée d'émancipation, qui est une idée très forte. Donc peut-être que l'oppression finit toujours par l'emporter, mais l'oppression ne parvient jamais à étouffer la révolte, la résistance et la possibilité d'un monde émancipé, d'un monde agencé autrement, et donc un monde qui ne serait pas... Alors l'idée, donc je termine là-dessus, l'idée centrale, j'ai essayé de l'expliquer dans le cours que certains d'entre vous ont suivi, on va le formuler comme ça, donc je vais essayer d'être très clair, même si c'est assez compliqué. La position de Deleuze est la suivante, elle est commune avec Foucault et on va voir la divergence. Tout être, toute entité est toujours plus que ce qui la constitue comme être et comme entité. Voilà cette idée un peu paradoxale. Tout être, toute entité est toujours plus que ce qui la constitue comme être et comme entité. Un policier est plus qu'un policier. Alors l'entité, c'est bien le policier, mais il est plus que lui-même. Donc ce serait du côté de Simondon. Un homme est plus qu'un homme. C'est aussi une femme, une libellule ou un bœuf le soir quand il rentre très fatigué chez lui, etc. Ce plus que soi-même excède tout dispositif et tout agencement forcément fini et réducteur. Vous n'êtes pas seulement un enseignant, vous n'êtes pas seulement. Ce plus que soi-même constitue un dehors, un autre, ou des autres soi-même à l'intérieur de chacun, de chaque entité, de chaque agencement, de chaque dispositif. Et donc je conclue sur l'idée la plus compliquée, mais j'espère arriver à l'exprimer. La différence entre l'anarchisme et la théorie des dispositifs de Foucault ne porte pas sur l'existence de ce plus que soi-même. Hein, on trouve ça chez Foucault, il me semble, ou du dehors des dispositifs. Elle porte sur la nature de ce dehors. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en plus quand on est policier ou enseignant, etc. Dans le pessimisme de Foucault ou d'Agamben, ou de Bourdieu et de sa conception du symbolique, ce dehors, ou ce plus que soi-même, c'est le vide. On voit bien ça dans Bourdieu. Hein. Le dehors, c'est le vide. C'est-à-dire, si on n'est pas un policier, ou n'importe quoi d'autre, hein, on n'est rien. On est un chômeur. Enfin, un chômeur, c'est vraiment le statut dégénéré de l'existence sociale. Donc, le dehors, c'est le vide, la mort, l'inexistence, comme le disait Bourdieu. Pour Deleuze, et la différence est gigantesque, comme pour le pragmatisme de Peirce ou de William James, Et donc pour l'anarchisme, le dehors, l'autre, le plus que soi-même, ce n'est pas le vide, c'est le plein. C'est le trop plein. C'est la surabondance, dit William James. Bref, c'est tout simplement l'anarchie. L'anarchie, c'est ça, l'anarchie, c'est qu'il y a trop de choses. L'anarchie, la surabondance des dispositifs et des agencements possibles se pressent pour exister. C'est ça l'anarchie, quand il y a trop de choses, qu'on explose. Tous en même temps, et donc la question, c'est pas d'opposer le vide au dispositif complètement condamnable, mais c'est de serrer, donc je vais revenir à Proudhon, de serrer les dispositifs, de les équilibrer, de les rendre compatibles pour produire toujours plus d'émancipation, alors là il faudra entrer dans la discussion, là où chaque chose est enfin à la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut, pour reprendre la phrase de Deleuze. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu dépassé.
Bien, donc je vais présenter une lecture aussi avec des éléments de convergence par rapport à Foucault. D'abord, mon propre point de vue sera un peu, le point de vue sera un peu différent parce que ma lecture de Foucault est liée à une double tension dans mon approche des choses, une tension entre sociologie et philosophie, et donc on verra un dialogue et une tension entre les deux, et une tension et un dialogue entre anarchisme et social-démocratie radicale. Donc c'est ça qui peut-être nous distinguera, c'est peut-être cette double tension. Alors je diviserai mon propos en deux grands morceaux, en partant notamment des textes là, qu'on a distribués. Certaines choses ont été déjà rappelées, donc j'irai plus vite par Daniel Colson. Je vais d'abord insister sur les apports principaux, selon moi, de l'analyse du pouvoir par Foucault. Et puis ça sera le plus long, et puis je signalerai quelques problèmes limites impensés dans les analyses de Foucault, ce sera plus court, du pouvoir. D'abord, donc, les apports principaux des analyses du pouvoir, selon moi, de Foucault. Alors, je distinguerai peut-être des choses qui sont associées chez Foucault, mais que je vais dissocier simplement de manière analytique, entre le pôle de l'analyse, hein, l'analyse de ce qui est ou a été, et puis le pôle des résistances et des alternatives face aux ordres sociaux existants. Alors, les apports principaux du point de vue des analyses de ce qui est ou a été. Daniel Colson l'a rappelé, on n'a pas le pouvoir de manière substantialiste, comme une substance, comme un objet qu'on pourrait prendre, comme une essence, quelque chose qui serait intemporel, qui serait toujours la même chose et qui aurait toujours la même consistance. Séparé du reste, on a une analyse relationnelle du pouvoir. Le pouvoir s'exerce, comme le dit Foucault, dans La volonté de savoir, ou dans le texte Le sujet et le pouvoir de 1982, il n'y a pas quelque chose comme le pouvoir ou du pouvoir qui existerait globalement, massivement ou à l'état diffus, concentré ou distribué. Il n'y a de pouvoir qu'exercé par les uns sur les autres, comme relation. Donc pas comme objet, pas comme substance, pas comme essence. Le pouvoir, donc, c'est des relations de pouvoir. Deuxième intérêt de Foucault, c'est pluraliser l'analyse du pouvoir, c'est-à-dire analyser plutôt des pouvoirs plutôt que le pouvoir avec un P majuscule. Je cite un entretien de Foucault avec Jacques Rancière en 1977, Pouvoir et stratégie. Les relations de pouvoir n'obéissent pas à la forme unique de l'interdit et du châtiment, mais elles sont de formes multiples. Il y a de formes multiples du pouvoir, il n'y a pas le pouvoir, il y a des pouvoirs. Et donc, on doit pluraliser les pouvoirs qui n'obéissent pas exactement toujours à la même logique, que ce soit la logique de la domination, la logique de l'État, comme le dit Foucault. Troisième dimension intéressante, une analyse qui n'écrase pas, pour reprendre un vocabulaire de sciences sociales, le micro sous le macro, ou le local sous le global, c'est-à-dire les analyses souvent, et ce sera le cas de l'analyse marxiste par exemple, on va analyser les situations locales ou ce qu'on appelle le micro, sous l'angle du macro, c'est-à-dire des relations globales qui leur donnent leur sens. Là, on n'a pas cet écrasement chez Foucault. On a ce qu'il appelle donc une microphysique du pouvoir, dans Surveiller et punir, le livre de 1975, qui s'intéresse à des micro-pouvoirs, comme dit-il, et qui va prendre pour objet une variété de contextes et de processus qui ne sont pas immédiatement intégrés à un ensemble, et donc qui prennent en compte ces multiples processus et contextes, ce que Foucault appelle dans la volonté de savoir les décalages, les contradictions qui les isolent les uns les autres. Tout ça n'est pas unifié, mais il y a des contradictions, il y a des décalages entre les différentes formes. Tout ça n'est pas unifié autour d'une forme globale. Ce n'est pas le macro, le global qui donne le sens au micro ou au local. Ce qui nourrit une proposition selon laquelle, toujours dans la volonté de savoir, 1976, le pouvoir vient d'en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au principe des relations de pouvoir et comme matrice générale une opposition binaire et globale entre les dominateurs et les dominés. Cette dualité se répercutant de haut en bas et sur les groupes de plus en plus restreints jusque dans les profondeurs du corps social. Donc ce n'est pas quelque chose qui descend d'en haut pour aller en bas, qui est une forme globale qui intègre tout par avance, le pouvoir. Il y a une prise en compte de la diversité des micro-pouvoirs. Ça ne veut pas dire que Foucault, et c'est un autre point à souligner, qu'il abandonne la question du global ou du macro, mais il propose un autre passage entre le micro et le macro. Donc, une façon de penser le micro et le macro qui n'empêche pas de penser le global, mais qui le pense autrement. Autrement que les visions totalisatrices, celles qui parlent de l'idée de totalité, hein, où on aurait englobé le tout, soit les visions en termes de système, systémiste, systémique, où tout est pris dans un système. Donc on a des passages entre le micro et le macro qui est loin des visions totalisatrices ou systémiques, ou simplement même, on peut utiliser Foucault dans une critique d'une tendance de la sociologie de Bourdieu. Foucault récuserait une tendance qui ferait du micro, le local, une simple actualisation du macro, du global. Or, quand Pierre Bourdieu analyse, par exemple, les relations ou les interactions entre des personnes, il a tendance à en faire la simple actualisation de structures sociales globales. Foucault donc propose une autre piste plus intéressante pour penser les rapports entre le micro et le macro. L'entrecroisement des relations de pouvoir, c'est dans Pouvoir et stratégie, l'entretien de 1977, l'entrecroisement des relations de pouvoir dessine des faits généraux de domination. Cette domination s'organise en stratégies plus ou moins cohérentes et unitaires. Les procédures dispersées, hétéromorphes et locales de pouvoir sont réajustées, renforcées, transformées par ces stratégies globales. Et tout cela avec les phénomènes nombreux d'inertie, de décalage, de résistance. Il ne faut donc pas se donner un fait premier et massif de domination, mais plutôt une production multiforme de rapports de domination qui sont partiellement intégrables à des stratégies d'ensemble. Donc, on voit que le pouvoir au niveau local n'est pas la simple actualisation de formes globales, mais que les micro-pouvoirs peuvent partiellement être intégrés à des formes globales. Une production multiforme de rapports de domination qui sont partiellement intégrables à des stratégies d'ensemble. Donc, il y a une multiplicité de rapports de pouvoir qui peuvent être captés par des formes globales. En retour, les formes globales ont des effets sur les micro-pouvoirs. Donc, le global a en retour un effet sur le local. Foucault parle dans la volonté de savoir de larges effets de clivage qui parcourent l'ensemble du corps social. Ceux-ci forment alors une ligne de force générale qui traverse les affrontements locaux et les relie. Bien sûr, en retour, ils procèdent sur eux à des redistributions, à des alignements, à des homogénéisations, à des aménagements de série, à des mises en convergence. Donc, les formes locales de pouvoir peuvent être intégrées à des structures globales de domination ou être cristallisées dans des structures globales de domination. En retour, ces formes globales de domination ont des effets sur les formes de pouvoir local, mais l'un et l'autre ne sont pas réductibles. Et ça va dans les deux sens. Cela conduit, et c'est un élément intéressant, dans cette perspective, une analyse stimulante des rapports entre pouvoir et domination. C'est-à-dire, le pouvoir, ce n'est pas la domination pour Foucault. C'est deux concepts différents. Or, on a souvent tendance à les associer. Je cite Foucault dans Le sujet et le pouvoir, ce texte de 1982. Ce qui fait de la domination d'un groupe, d'une caste ou d'une classe et des résistances ou des révoltes auxquelles elles se heurtent un phénomène central dans l'histoire des sociétés, c'est qu'elle manifeste sous une forme globale et massive à l'échelle du corps social tout entier l'enclenchement des relations de pouvoir sur les rapports stratégiques et leurs effets d'entraînement réciproques. Il y a un enclenchement de diversité de relations de pouvoir, des effets d'entraînement réciproques qui produisent quelque chose comme des rapports de domination. Mais les rapports de domination, ce n'est pas les pouvoirs. C'est deux choses différentes. Le pouvoir, et c'est un autre élément important de Foucault, c'est aussi une mobilité plutôt qu'une fixation. C'est pour ça que Foucault va souvent associer pouvoir au terme de stratégie et de tactique. Ce que Foucault appelle aussi dans la volonté de savoir le jeu qui, par la voie des luttes et d'affrontements incessants, les transforme, les renforce, les inverse. Donc il y a une mobilité constante de ces rapports de pouvoir, il n'y a pas une fixation. Et ces rapports de pouvoir ne sont pas univoques, omniprésents, omniscients. Ils ne jouent pas que d'un seul côté. Il n'y a pas un rapport misérabiliste au pouvoir, c'est-à-dire dans lequel où il y aurait des gens soumis au pouvoir, qui seraient des miséreux, simplement contraints, qui seraient passifs, et des gens dominateurs qui seraient au contraire actifs. Il n'y a pas cette vision misérabiliste des rapports de pouvoir, comme il y a souvent dans l'analyse des rapports de pouvoir. Les relations de pouvoir ne sont pas univoques, elles définissent des points innombrables d'affrontements, des foyers d'instabilité, dont chacun comporte ses risques de conflit, de lutte et d'inversion, du moins transitoire, des rapports de force. C'est dans Suverrier et Punir, en 1975. Quand il y a du pouvoir, il y a de la résistance. Donc, le pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure Daniel, il y a toujours de la résistance. Il y a une mobilité, et ce n'est pas univoque, le pouvoir. C'est-à-dire que ça peut s'inverser, les rapports de force. Ça peut bouger. Regardons, par exemple, un dispositif, puisque Daniel a parlé de dispositif. Le dispositif du débat sur l'identité nationale. Au départ, lancé par le gouvernement, au départ, vu les rapports de force, on peut penser qu'il va marcher, qu'il va cristalliser l'ensemble des rapports de pouvoir existants pour que ça fonctionne un peu plus, parce que on sait que à l'avance ça avait déjà marché, ça s'est cristallisé notamment dans des formes racistes, etc., qui ont marché, le discours sécuritaire associé au discours raciste qui ont marché, et pourtant toute une série de décalages qui vont se produire à ce moment-là, une série de gens qui vont lancer des appels. Je pense au rôle important au tout départ joué par le site Mediapart là-dedans, dans cette histoire, qui vont déconsidérer un peu le gouvernement, qui vont accrocher une série d'intellectuels, qui vont diviser une partie de la droite sur ces questions, etc. Au bout du compte, ce rapport de force qui se pensait de manière évidente aller dans le sens du gouvernement a contribué à l'échec de la droite. Donc, il y a eu inversion. Mais c'est mobile. Il n'est pas impossible qu'un discours sécuritaire et ethnicisant dans 6 mois, au contraire, marche encore. Donc il n'y a pas de fixation définitive sur ces questions. Mais ça peut, à un moment donné, s'inverser. Ce n'est pas fixe. Ce n'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Ça ne va pas toujours dans le même sens. Bon. Alors, ces différents éléments que Foucault apporte dans l'analyse, il les apporte aussi dans la façon de penser les résistances et les alternatives. S'il y a pluralité de pouvoir, il y a aussi pluralité des résistances. Tout à l'heure, Daniel l'a rappelé, dans la texte de la volonté de savoir, il n'y a donc pas rapport au pouvoir, un lieu de grand refus par rapport au pouvoir, mais les résistances, des résistances qui sont des cas d'espèce, possibles, nécessaires, improbables, spontanées, sauvages, solitaires, concertées, rampantes, violentes, irréconciliables, promptes à la transaction, intéressées ou sacrificielles. Une diversité de résistance. Il y a toujours des résistances. Et donc, ce n'est pas l'omniscience des rapports de pouvoir. D'une certaine façon, c'est pas, évidemment, ça, cette dimension-là s'oppose à ce que tout à l'heure a dit Daniel sur Agamben. moins, je dirais moins Bourdieu, parce que son pessimisme peut davantage être discuté, mais quelqu'un qui inspire, en plus d'Agenbem, le groupe, le comité invisible et donc les auteurs de l'insurrection qui vient autour de l'affaire de Tarnac, c'est Guy Debord et la société de spectacle. Cette idée qu'on ne peut jamais sortir, qu'on est complètement informé, que toujours est récupéré par la même matrice, bon, que c'est impossible d'en sortir. Ce qui fait que dans l'insurrection qui vient, les auteurs à la fois nous disent c'est impossible d'en sortir, le système récupère tout. Tous ceux qui prétendent être des résistances, les altermondialistes, les décroissants, etc., les ouvriers sont toujours récupérés. Les ouvriers sont des bourgeois, etc., etc. Et en même temps, dans une autre partie, puisque ça s'appelle l'insurrection, ils annoncent l'idée quand même qu'il y a des résistances. Et donc, évidemment, si c'est impossible d'en sortir, et si en même temps il y a des résistances, c'est qu'entre les deux, il y a le miracle. Je pense que c'est la figure du miracle religieuse, disons, théologique, qui est le point d'accroche, disons, de l'insurrection qui vient comme possibilité de la résistance. Parce qu'à la fois, c'est impossible, et en même temps, il y a quand même quelque chose, bon, qui émerge, un miracle qui émerge. Ce qui est intéressant chez Foucault aussi, c'est qu'il y a des résistances, mais on peut globaliser les résistances aussi. C'est-à-dire que si le pouvoir peut se cristalliser dans des formes de domination, les résistances peuvent aussi se globaliser. C'est très intéressant dans le texte, l'entretien de 1977 avec Jacques Rancière. La résistance au pouvoir existe d'autant plus qu'elle est là où est le pouvoir. Elle est donc, comme lui, multiple et intégrable à des stratégies globales. Donc, si on peut globaliser les pouvoirs dans des formes de domination, on peut globaliser aussi les résistances. Mais pas nécessairement sur la forme de l'unification classique, mais davantage sur la forme de la convergence. Alors, chez Foucault, il y a aussi, c'est mon deuxième point qui sera plus court, il y a une série de problèmes d'impensée de limite sur cette question du pouvoir. D'abord, il y a le problème de l'extension dilution du pouvoir. Parce que s'il y a du pouvoir partout, si on ne peut pas être extérieur au pouvoir, il y a un danger de dilution de cette notion, puisque finalement, si le pouvoir c'est tout, est-ce que ce n'est pas rien? Bon, d'une certaine façon. C'est-à-dire, si tout est du pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas du pouvoir? En quoi cette notion de pouvoir devient une notion qui rend intelligible les rapports entre les humains, si c'est tout, d'une certaine façon? C'est la même chose qu'on pourrait dire avec l'utilisation, l'extension d'illusion de la notion d'intérêt aujourd'hui dans les sciences sociales. Si tout est intérêt, on ne voit pas très bien l'utilité de cette notion d'intérêt, au bout d'un certain temps. Dans le siège de ce point précédent, il y a un problème épistémologique. C'est-à-dire qu'il y a la tentation à tout résumer autour de la notion de pouvoir. Ce que j'appellerais un réalisme du concept. C'est-à-dire une tentation de confondre le concept et la réalité observable. Le concept, c'est quoi? C'est un mode d'intelligibilité de la réalité. C'est un type de découpage de la réalité. C'est un type d'éclairage de la réalité. Or, la réalité observable est toujours découpable théoriquement de différentes façons. Elle peut être découpée pas avec pouvoir, mais elle peut être découpée avec désir, elle peut être découpée avec amour, elle peut être découpée avec différents concepts. Donc il y a une tentation chez Foucault d'assimiler, dans ses nombreux énoncés sur le pouvoir, d'assimiler la réalité au pouvoir nécessaire, comme s'il n'y avait pas d'écart entre le concept et la réalité observable. Ce qui ne lui permet pas de voir les adéquations du concept de pouvoir, mais aussi les limites pour penser une série de relations sociales à la notion de pouvoir. Est-ce que la notion de pouvoir, dans toutes les formes de ce qu'on appelle amour, est le concept le plus intéressant pour penser les relations d'amour? Est-ce que pour penser la coopération, c'est le meilleur concept pour penser la coopération? Est-ce qu'il n'y a pas des limites de son champ de vision? Ça, c'est des questions épistémologiques que pose un grand sociologue français contemporain, Jean-Claude Passeron, quand il dit que tous les concepts sociologiques qui visent à penser la réalité sociale, ils doivent être appréhendés dans leur adéquation et dans leur inadéquation à la réalité observable. Et justement parce qu'on ne doit pas confondre le concept et la réalité. Et tout ça débouche sur un risque de théorie unique qui prétend et qui est en contradiction avec d'autres aspects de Foucault. Puisque d'une certaine façon, Foucault nous dit qu'il n'y a pas de théorie unique, mais en même temps, il pourrait nous constituer une théorie unique dont le cœur serait le pouvoir. Ici, il me semble que pour donner plus de mobilité à Foucault qui est déjà un théoricien de la mobilité, il faut aller voir du côté d'une remarque très intéressante du philosophe Ludwig Wittgenstein dans le Cahier bleu, qui est un texte de 1933-1934. Je cite Wittgenstein. Dans le domaine de la pensée, certains progrès importants sont comparables au déplacement des volumes d'une rangée que l'on reclasse dans d'autres rayons, sans que rien encore ne permette de penser que cette nouvelle position demeurera définitive. La chose la plus difficile pour le philosophe est de ne pas dire plus qu'il ne sait réellement. Et il lui arrive trop aisément de croire, pour avoir correctement classé deux volumes l'un par rapport à l'autre, qu'il a découvert leur emplacement définitif. L'idée d'une théorie unique, c'est ça. C'est l'idée, parce qu'on a classé autrement les volumes de la bibliothèque, donc on a créé quelque chose d'intelligible, très intéressant, qui a éclairé autrement la réalité, c'est de croire, parce qu'on a trouvé cette forme d'intelligibilité, qu'on a trouvé l'emplacement définitif de l'ensemble des volumes, donc de la réalité. Donc, un danger de réalisme du concept chez Foucault autour de cette notion de pouvoir. Autre problème ou autre limite, c'est pourquoi ce chemin obligé du local au global ? C'est-à-dire que pourquoi on ne penserait pas les rapports de manière sans considérer que le local est une simple production du global ? Et sans penser en même temps que le global, c'est la simple agrégation de ce qui se passe au niveau local, qu'il y a une réalité propre du global, notamment de rapports de domination. Pourquoi pas penser les relations dans les deux sens? Pourquoi penser essentiellement, surtout, le passage du local premier au global? Ici, c'est un autre sociologue qui nous donne des pistes intéressantes, c'est le sociologue américain Aaron Sicurel, dans un texte de 1981 sur les rapports entre la microsociologie et la macrosociologie. Sicurel nous dit « Il ne peut exister de microsociologie qui prétende étudier l'interaction sociale comme des productions locales auto-organisées, pas plus que les théoriciens du macro peuvent revendiquer des macrostructures sociales ignorant les microprocessus. Aucun des deux niveaux, micro ou macro, ne sont des niveaux d'analyse autosuffisants. Ils interagissent constamment en dépit de la commodité qu'il y a à se placer à un niveau ou à un autre. » Il nous indique qu'il y a deux niveaux d'observation de la réalité qui ont des relations. Et pas cette idée qu'on part du local pour aller au global, simplement. Où le local, d'une certaine façon, serait le plus important, ou la base déterminante. Alors ça a des conséquences sur, et je terminerai là-dessus, sur les résistances et les alternatives, dans la façon de penser les rapports entre le local et le global. Si on considère que c'est pas du local au global, il n'y a pas simplement une agrégation, un passage du local au global, mais qu'il y a des interactions entre les deux niveaux. Eh bien, c'est la même chose pour les résistances, pour les luttes contre les ordres sociaux dominants. Il peut y avoir une vision plus dialectique. Et c'est pour ça que j'avancerai par rapport à un mot d'ordre qui était celui de l'écologie politique à ses débuts, penser globalement, agir localement, je proposerai deux slogans plus dialectiques. Agir localement, penser globalement. Parce que là où on agit, Foucault a raison, c'est là où on est confronté à des rapports de pouvoir particuliers, dans des relations particulières. Donc il y a agir localement. Et en même temps, on a besoin de formes qui débordent ces catégories, pour donner du sens à ce qui se passe dans le local. C'est ce que fait Foucault d'une certaine façon sans le théoriser. S'il dit pouvoir, c'est un mot général, c'est un mot global, qui vise à rendre compte de tas de relations. Ce n'est pas simplement ce qui se passe dans la situation. Il a déjà un mot général, un mot global. Agir localement, penser globalement. Mais il faut aussi agir globalement et penser localement. Agir globalement, puisque ces structures globales qui peuvent contraindre aussi le local, elles ont des effets globaux sur lesquels il faut agir aussi à un niveau global. Donc il faut aussi agir globalement. Et quand on agit globalement, il ne faut pas oublier la spécificité des rapports de pouvoir locaux, qui ne sont pas réductibles au global. Donc avec cette piste, agir localement, penser globalement, agir globalement, penser localement, Il y a l'idée d'un rapport plus dialectique entre le local et le global dans les résistances mêmes, et qui n'est pas simplement cette idée d'un passage, disons, du local au global. Voilà un peu pour ce premier élément d'intervention sur les apports et les limites de Foucault. Et je redonne la parole à Daniel.
À moins qu'il y ait des questions, non ?
Des questions,
on fait comme ça. D'accord. Il y avait trois choses que je voulais peut-être signaler. Donc le problème numéro un sur lequel tu as insisté beaucoup et qui me semble la grande difficulté de Foucault, c'est effectivement cette idée de local et de global. Donc il s'oppose à une vision où le détail, notre vie, enfin nous-mêmes, le local, on serait les supports structures, comme disaient les structuralistes, hein, on serait là uniquement pour agir par le système général qui nous fait agir. Donc Foucault, il sort de là et il s'intéresse aux interactions, et là en prise avec la sociologie telle qu'elle existe à partir de ce moment-là, les interactions immédiates. Mais du coup, on est confronté à un problème, on passait du global, l'État, le capitalisme, les classes sociales, à moi, ma pauvre petite vie de serrurier, je ne sais pas quoi, on passerait à l'inverse. Comment toutes les petites vies des uns et des autres donneraient des résultats? Et là, il y a un vrai problème, un énorme problème dans Foucault, c'est-à-dire que la mise en série, là, il y a vraiment une difficulté. Donc là, je pense que je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec la manière dont les politiques essayent de résoudre le problème, mais il y a une difficulté. Il y a sans doute aussi une solution, mais il y a des solutions possibles, hein, du côté, après, que Foucault ignore, en particulier, il y a Gabriel Tarbes, qui est un sociologue qui a été découvert au moment où Foucault arrivait à la fin de sa vie, et Gabriel Tarbes permet de penser le local et le global à travers une conception monadologique. Hein, enfin, j'assène des noms, mais Gabriel Tarbes, c'est très intéressant, lisez sociologie et monadologie, et vous verrez comment Gabriel Tarbes résout ce problème de manière passionnante. Or, ce qui est intéressant, c'est que s'il se réclame de la monadologie de Leibniz, Proudhon, un peu avant, s'en réclamait aussi, et la pensée proudhonienne est très monadologique. Donc il y a une solution. Donc il y avait ce premier problème. Le deuxième problème que je voulais souligner en réagissant à ce que tu avais dit, c'était le courant radical actuel autour de l'insurrection qui vient, ou de Tarnac, etc. Donc sur Debord, c'est intéressant de voir que Debord est très présent dans ces textes, pas tous, hein, mais dans certains de ces textes, mais il n'est pas présent directement, donc il est présent par le style, par des choses comme ça, qui posent des problèmes. Par contre, ce que tu soulignais, qui me paraît très intéressant, c'est la contradiction interne à l'insurrection qui vient, entre le dernier chapitre sur les communes, où il est du côté de, ce que nous on peut penser par exemple sur le terrain libertaire, et la première partie qui est une vision. Et donc ça c'est passionnant parce que ça renvoie à une contradiction de ce mouvement qui à la fois se réclame de l'anarchisme par certains aspects et en même temps par le voie du communisme, c'est ce qu'on avait vu dans le dernier cours au mois de janvier. Par la voie du communisme, il se réclame d'un autre schéma, et dans les textes, ça apparaît comme une contradiction, pas seulement dans l'insurrection qui vient, mais dans d'autres. Voilà, ça c'était le deuxième point. Alors le troisième, c'est le plus important à mon avis, c'est le problème du statut, du concept de pouvoir et de... Alors, moi, ce qui me semble important, c'est qu'en fait, l'utilisation de ce concept par Foucault renvoie réellement à une vision ontologique. C'est-à-dire, ça renvoie à une ontologie, à une pensée de l'être, de ce qu'est le réel et de ce que sont les choses. Et donc, derrière cette pensée ontologique, chez Foucault, au moins dans ces textes-là, je voudrais peut-être voir tous les textes, c'est que Foucault, il est nietzschéen, tout simplement. Et que la pensée auquel qu'utilise Foucault d'un point de vue historique et sociologique, c'est une pensée de la volonté de puissance, le fait que le réel serait constitué de volonté de puissance, d'une multitude de volonté de puissance qui, je ne veux pas vous faire un truc sur Nietzsche, j'y arriverai pas, mais ces volontés de puissance, elles n'existent qu'ensemble. Donc on retrouve tous les points de Foucault, et donc il y a bien une vision ontologique chez Foucault de la volonté de puissance. Alors si je reviens à ma propre préoccupation par rapport à la pensée libertaire, c'est que dans Nietzsche, il y a effectivement, est-ce que les forces ne luttent que pour écraser les autres ? Donc il y a cette question de l'équilibre des forces qu'avance Proudhon. C'est-à-dire de la possibilité que des forces s'équilibrent, et un équilibre c'est toujours instable. Si je reprends mon exemple du ménage, si vous avez deux forts caractères qui gèrent une succursale casino par exemple, enfin des choses assez contraignantes, plus cinq enfants, et bien si vous avez deux forts caractères, c'est évident que ça ne va pas être une égalité par l'absence de force. C'est deux forces qui s'équilibrent, l'équilibre est toujours instable, et il y en a toujours un qui domine l'autre pour les œufs sur le plat, et il y en a un qui sait mieux faire que l'autre, etc. Je crois que j'ai... Voilà, donc comment... Voilà, mon cerveau et tout. Je suis désolé, j'ai peut-être... Bah, tant mieux, ça rapproche.
Oui, alors sur les questions en débat. Je pense que il me semble que tu as en partie raison sur Bourdieu, mais tu le tires sur une tendance. C'est-à-dire que dans le travail que j'ai fait sur Bourdieu, j'ai essayé de montrer qu'il n'y avait pas simplement une anthropologie philosophique présente, donc c'est-à-dire une certaine conception des propriétés, des caractéristiques de la condition humaine, des humains qui est présente, mais plusieurs et qui innervent des aspects différents de son travail. Bon. Il y a ce dont tu as parlé autour du symbolique, que moi j'appelle la lutte contre la mort symbolique. Cette idée qu'il n'y aurait aucun sens dans la vie humaine, que c'est la lutte avec les autres qui contribue à construire un sens social par rapport à un non-sens originel. Et il y a une vue de Bourdieu ici, philosophiquement, qui est très proche de Cioran, à mon avis. C'est-à-dire une sorte d'une vision très noire et pessimiste de la condition humaine qui produit sans arrêt des artefacts qui se révèlent d'une façon artificielle constamment, qui donnent du faux sens à la vie qui restera toujours avec son non-sens originel. Bon. Et cette dimension, elle est présente par exemple très nettement dans... Elle irrigue fortement un livre comme La Distinction. Bon. Mais il y a chez Foucault aussi, chez Bourdieu aussi, une anthropologie philosophique optimiste qu'il puise chez Spinoza autour d'une possibilité d'émancipation. C'est-à-dire, l'émancipation serait possible à travers la connaissance des déterminations. C'est ce qui est, disons, une conception de la liberté que avance Spinoza dans l'éthique. Le libre arbitre, c'est une illusion de liberté. C'est-à-dire que croire que je suis libre parce que je fais ce que je veux, c'est au contraire être simplement ballotté par des déterminations qui m'agitent simplement. Par contre, il y a une possibilité de liberté, ce que Spinoza appelle libre nécessité, et que reprend d'une certaine façon Bourdieu, c'est par la connaissance de ces déterminations, je peux conquérir d'une certaine façon une liberté relative. Donc il y a une dimension de l'émancipation, elle est très locale, elle est très difficile, elle a les limites d'être très intellectualiste. Et d'une certaine façon, elle hérite d'un certain intellectualisme de Spinoza, et puis après de la pensée des Lumières, puisque c'est quand même l'activité intellectuelle qui, au bout du compte, est le seul producteur possible de la liberté. Par l'accès de connaissance et détermination. Et parfois, Foucault se laisse aller à même cet intellectualisme devient sociologie. C'est-à-dire, le sociologue est le seul, en fait, qui peut... Et donc, la seule façon d'être libre, c'est de devenir sociologue. Donc là, il me semble qu'il y a plusieurs Bourdieu de ce point de vue. C'est pour ça qu'il est... il n'a pas, le pessimisme d'Agamben ou de, d'une certaine façon de la thématisation de la société de spectacle par Debord.
Est-ce que je peux... Oui, alors donc là on touche directement une divergence possible, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette liberté, donc là maintenant on anticipe sur le débat sur le sujet. Alors moi je voudrais dire simplement deux choses. C'est vrai que Bourdieu, il oscille entre un pessimisme radical et son optimisme, c'est quand même celui du savant. Donc le point de vue anarchiste, il n'est pas d'accord sur, ça c'est Bakounine qui l'a développé, c'est-à-dire que cette illusion de croire tout le monde est déterminé par un système, mais qu'une fois que le savant, il saura, tu vois, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que le fait, la science de son malheur, ici je pense qu'il y a d'ailleurs plein de gens qui ont été en analyse. Donc vous voyez bien la différence entre l'analyse américaine où le psychologue vous écoute et vous dit je vais vous expliquer, vous rentrez chez vous en disant ah c'est vrai mon papa il m'a violé 3 fois. Non je prends un exemple grave, mais on me faisait des bises le soir et tout, ça y est j'ai tout compris, je suis guéri. Non, la position libertaire serait plutôt du côté des lacaniens où 30 ans après on est toujours en analyse en train de il n'y a pas le point de vue du savant qui résout le problème. Voilà. Donc Bakounine s'en prend au savant parce qu'on voit bien comment le savant, ça s'instrumentalise, comment le parti va être l'instrument, l'État, le parti va être l'instrument de Lénine, qui est le chauffeur de locomotive, qui sait décrire les trucs. Donc là, il y a une divergence. Puis la deuxième, elle est ton interprétation de Spinoza, et c'est certainement celle qui est hégémonique en plus, mais c'est vrai que moi, je me réclame plutôt de l'interprétation de Deleuze, de Spinoza, où la solution, la béatitude spinoziste, c'est pas la connaissance de son malheur, mais c'est d'ajuster ses affects, d'agencer ses affects, et par les notions communes de construire. Bon, enfin là, on touche un peu une divergence, mais je voulais juste signaler ce point.
Sur Bourdieu, il y a deux, dans la figure spinoziste, mais qui est un bout simplement de Spinoza, dans la figure spinoziste, il y a deux choses. Il y a la tentation, disons, du savant qui apporte la vérité, disons, aux opprimés de l'extérieur, un peu une position Kautsky-Lénine, on peut dire, de la sociologie.
Bourdieu.
Mais il y a des textes qui, au contraire, disent que ça peut se diffuser. C'est-à-dire que cette connaissance de ses propres déterminations sociales peut être des outils, des ressources qui se diffusent et qui sont utilisées par les gens eux-mêmes. Et que donc cette prise de distance par rapport à ses déterminations devient plus quelque chose qui se démocratise, qui s'utilise pour chacun. Prendre de la distance, etc. Et donc pas sous l'angle du savant qui, mais c'est une appropriation, disons, diversifiée par les opprimés de ressources. Donc là, on a deux choses différentes. Mais il est vrai que le point de vue, disons, du savant qui donne la vérité de l'extérieur aux masses aliénées est un élément important qu'on trouve effectivement chez Bourdieu. Sur la question, je voudrais revenir sur la question du rapport entre local et global aussi. Je pense que l'intérêt de Foucault, c'est de rompre avec une certaine vision marxiste. Et donc c'est aussi par rapport à la vision marxiste très importante à son époque qui réagit. Cette idée qu'on part de structures de domination, comme les rapports de classe, et qu'on va ensuite interpréter toutes les relations locales en fonction de ce cadre global. Et toutes les situations locales qu'on va observer, ça va être simplement une illustration. Ce qui fait qu'on ne s'intéresse plus tellement à l'observation des situations locales. C'est toujours la répétition d'une certaine façon, sous des formes différentes. Et pour le militant marxiste, en fait, la situation locale, souvent, ça va être... une matière pédagogique pour expliquer les structures globales. Donc Foucault nous sort de ça. Il montre que le global, une structure de domination, ça se fait avec des relations locales, mais que ces relations locales sont mobiles, débordent toujours, peuvent être utilisées dans différents sens, il y a aussi de la résistance, etc. Donc il y a une plus grande mobilité, et tout n'est pas capté par des formes globales de domination. Bon. Ce qui est intéressant aussi pour les résistances, c'est-à-dire que on peut faire converger des choses, mais ce n'est pas sous la forme de l'unification qui est celle de qui a longtemps été le vocabulaire, disons, des républicains, des socialistes et des marxistes. C'est-à-dire il faut unifier, il faut l'unité, etc. On est dans une construction de convergence, de coordination, de coopération possible. Le seul problème que je vois dans cette façon, disons, qui intègre une dimension plus libertaire, justement, dans la façon de concevoir la politique, c'est qu'il y a toujours cette idée que le plus réel, le plus vrai, le plus déterminant, c'est ce qui part du local. C'est les micro-pouvoirs locaux. Et que donc, d'une certaine façon, c'est le global, c'est une entité seconde. Et même chose, disons, pour quand on construit des convergences dans la politique. Alors qu'on peut avoir une vue plus dialectique, c'est ça que j'essayais d'indiquer à travers ce travail sociologique de Sicurel, on peut avoir une vue plus dialectique où le global pesant sur le local et le local aussi, le global étant fait de local, on est amené à intervenir à différents niveaux. Le niveau local n'est pas le seul niveau réel. Pour un marxiste, le niveau global, c'est le niveau réel. On va dire, ce qui compte, c'est lutter contre l'impérialisme. Bon. Et puis alors là, vous vous amusez à faire des carottes bio dans votre jardin. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à l'impérialisme? C'est quand même ça le plus important. Hein, c'est ça qu'on va nous dire. Bon. L'adepte des carottes bio dans son jardin, il va dire toutes ces conneries, je m'en ai rien à foutre, l'impérialisme c'est quoi, etc. Moi, en attendant, je fais des carottes bio dans mon jardin et je mange pas de la merde. Bon. Ah, toi, bon. Je pense que...
J'ai pas de jardin, mais...
Entre le discours de la carotte bio et le discours de l'impérialisme, il y a des interactions entre le local et le global. Et il me semble que Foucault donne des pistes pour ça, mais en même temps, il reste marqué par l'idée que quand même, le plus réel, c'est le micro, et donc c'est ça dont on doit partir nécessairement, c'est ça le plus important. On peut peut-être laisser les...
Ouais.
Parce qu'on arrive à l'heure à peu près.
Ouais, ouais.
Et donc on peut ouvrir le débat.